Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Albitzès. Aujourd'hui, on est avec plusieurs personnes autour de la table. On va parler de médiation nomade notamment, on va voir ce que ça peut vouloir dire. Et on va voir qui le porte ce dispositif et qu'est-ce que ça implique. On est à Cantepo, on rappelle que Radio Albitzès est implanté en Cantepo et ça va être... un petit peu ce qui va nous amener aussi à ce sujet, les quartiers, la vie dans les quartiers, le vivre ensemble, les tensions qu'il peut y avoir et comment on gère tout ça au jour le jour. On va présenter d'abord Bérangère. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Bérangère, donc tu es
bénévole à Radio Albigès et j'interviens à plusieurs titres sur le quartier de Cantepo pour l'aide aux devoirs au centre social et comme prof au collège Jean Jaurès qui est fréquenté notamment par les enfants du quartier de Cantepo.
On a François qui fait partie du MAN. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Le MAN, tu peux rappeler.
Le MAN, c'est le mouvement pour une alternative non violente. Voilà, nous faisons depuis une quarantaine d'années des sensibilisations, des formations ou des interventions au sujet de la non-violence. Et récemment, sur le quartier de Cantepo, nous avons eu envie de faire venir Jean-François Bernardini, qui est venu développer ce que peut apporter la non-violence dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie sociale. Sociétale. Voilà, et nous avons, du coup, il y a un collectif qui s'était mis en place sur le quartier de Cantepo pour l'organisation de ces conférences sur la non-violence. Et suite à cela, ce collectif souhaite continuer, et notamment souhaite continuer d'avoir
des actions,
à pouvoir entrer en contact davantage avec les habitants et du quartier de Cantepo et des quartiers d'Albi. Et nous avons trouvé que la médiation nomade mise en place depuis quelques années dans la région parisienne, à Lyon, ailleurs en France, par donc Yazid Kerfi, nous avons trouvé que c'était peut-être quelque chose qui répondrait à nos attentes, à nous aussi, sur Albi.
Alors Yazid Kerfi, on l'a au téléphone, mais je vais finir d'abord le tour de table en studio. On a aussi Alain.
Voilà, bonjour, je suis un habitant du quartier de Cantepo, investi dans diverses associations, et je participe à ce collectif. Donc pour essayer d'arriver à mieux vivre ensemble sur notre quartier.
Et donc on le disait, Yazid Kerfi qu'on a au téléphone donc, autour de médiation nomade. Yazid, tu nous entends toujours? Bonjour.
Oui, je vous entends bien.
Bonjour. Ok. Yazid Kerfi, donc on a dit médiation nomade. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être en quelques mots, après on développera un peu plus, comment tu définis médiation et nomade? Pourquoi?
La médiation, parce que l'important, c'est de rapprocher des mondes qui se parlent de moins en moins. Hein. On s'aperçoit que depuis des années, que, par exemple, il y a un certain nombre de publics qui ne vont plus vers les institutions, qui ne vont plus vers les adultes et qui s'enferment entre eux. Mmh. Et ça, c'est la logique de guerre. Quoi. Si on se sépare et au bout d'un moment, il y a une méconnaissance de l'autre et puis il y a du mépris, ça peut créer des gros dysfonctionnements, quoi, puis des conflits. Quoi. Et le rapprochement, c'est l'objectif de la médiation nomade, c'est de rapprocher les uns et les autres. Des mondes qui ne se parlent pas, de pouvoir se rencontrer. Et pour ça, il faut provoquer les rencontres. Puisque naturellement, les gens ne se rencontrent pas. Et donc, la médiation nomade, c'est s'installer... Moi, mon objectif, c'est de m'installer le soir sur l'espace public, à la rencontre notamment des jeunes qui ne vont plus vers les institutions. Et donc, je crée ce lien, ça existe depuis 6 ans. C'est-à-dire que j'ai un camion, je mets des tables dehors, comme une terrasse de café. Je m'installe à partir de 20h jusqu'à minuit et je crée des espaces de parole. La parole, c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas des espaces de parole. Donc, c'est créer des espaces de parole, mais ça peut être aussi des espaces de conflit, puisque le conflit, c'est quand même de la parole, quoi. Et ça peut éviter aussi la violence, quoi.
Alors, je rappelle le dispositif. On est 4 autour du plateau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. Sinon, moi, je continue mon déroulé. Yazid, donc, médiation nomade, Yazid Kerfi, tu peux nous raconter un peu ton parcours. Pourquoi tu t'es amené à créer cette dynamique là et ton histoire avec la médiation peut-être que toi tu as expérimenté?
Bah, tout est lié par rapport à mon histoire personnelle, quoi. Moi, je suis issu d'un quartier, le quartier du Valfouré à Mantes-la-Jolie. j'ai eu un parcours un petit peu chaotique, j'étais plutôt en échec scolaire, je n'aimais pas l'école, et puis mes copains c'était des mauvais élèves, et parmi mes copains certains étaient dans la délinquance, et donc j'ai choisi à un moment donné la délinquance. Pour moi la délinquance c'est aussi une façon d'exister, quand tu n'existes pas d'une manière honnête, en étant délinquant tu peux exister d'une manière malhonnête. Vous voyez, il y a aussi cette raison, mais derrière il y avait aussi un grand mal-être, quoi. Donc j'ai été délinquant pendant à peu près une quinzaine d'années, j'ai fait à peu près 5 années de prison, donc j'ai toujours récidivé, jusqu'au jour où il y a des personnes qui sont venues me soutenir, parce que le gouvernement français voulait m'expulser en Algérie, parce qu'avant j'étais algérien, maintenant j'ai la double nationalité, pourtant je suis né en France. On m'a dit que j'étais irrécupérable, multirécidiviste, et à partir de là, beaucoup de personnes se sont mobilisées en regardant plutôt mes qualités que mes défauts. Et ça, ça m'a complètement changé. Pour une fois, les gens regardaient plutôt mes qualités, et pour leur faire plaisir, j'ai décidé de changer. Donc j'ai fait 2 choix. Premièrement, j'arrêtais de commettre des délits. Et deuxièmement, je ferais tout pour aider les autres. Donc en sortant de prison, j'ai fait animateur dans une maison des jeunes, parce que je voulais m'occuper des jeunes pour éviter qu'ils suivent un parcours comme le mien. J'ai été directeur d'une maison des jeunes qui était notamment ouvert la journée et la nuit, à peu près jusqu'à 2h du matin. Mmh. Et après, j'ai créé quand même un Médiation Nomade, parce que mon boulot, c'est quand même de créer des espaces ouverts le soir pour accueillir ces publics-là qui ne vont pas vers les autres.
Et est-ce que ça vient en complément justement de pouvoir public qui faisait plus trop le taf, plus trop le boulot, c'est ça,
tu parles, pas du tout. Mmh. En général, la plupart des centres sociaux en France ou des maisons des jeunes ont les mêmes horaires que la mairie. 9h midi, 14h, 18h, fermé la nuit et le week-end. Mmh. Et quand tu regardes les problèmes de délinquance, de violence, de suicide, de consommation d'alcool ou de drogue, ben c'est souvent le soir et le week-end. Et donc je trouve que c'est pas normal que... Il n'y a pas un travail de prévention qui est fait à ces heures-là.
Bérangère.
Alors nous, l'une des difficultés qu'on rencontre et qu'on constate sur le quartier dans lequel on intervient, c'est qu'en fait, les jeunes qui se placent un peu en marge des institutions et de la société, c'est des jeunes qui en fait ne fréquentent plus ces centres sociaux dont tu parles et qui ferment sur les horaires où toi tu peux intervenir. Et du coup, on se demande, est-ce que véritablement ces jeunes-là, ils viendraient sur les dispositifs tels que les tiens, parce qu'on ne les voit pas de toute façon venir sur les centres sociaux, dans les maisons de quartier. Ils ont déjà un peu passé un cap.
Oui, mais après, ce n'est pas une logique de mur, c'est une logique d'humain en même temps. Ils vont pour la personne. Donc c'est d'abord aux personnes qui travaillent à l'intérieur de retisser des relations de confiance avec eux. Et donc pour les retisser, il faut aller à l'endroit où sont les jeunes. Une fois que j'ai cette confiance, ils viendront dans les lieux où vous êtes en même temps. Mais si on construit des murs, des super locaux, puis on attend que les jeunes viennent, ils viendront jamais. Donc au bout d'un moment, c'est à nous d'aller vers les autres, puisque eux, ils viendront pas vers nous en même temps. Et une fois qu'on a créé cette relation de confiance, on essaye à un moment donné de monter les projets qui correspondent à la demande de ces jeunes. Puisque souvent, ces institutions ont peut-être des projets qui ne correspondent pas à la demande des jeunes, quoi.
Et comment vous arrivez à instaurer un peu un dialogue? Parce que j'imagine que ça prend du temps. Tu parles de confiance à instaurer. Il faut qu'elle ait le temps de se mettre en place. Cette confiance, combien de temps ça prend un peu avant que ces jeunes qui se sont un peu marginalisés ou avec lesquels on n'arrive plus à communiquer, avec des raisons qui viennent d'un côté et de l'autre, combien de temps ça prend pour essayer de renouer un dialogue un peu avec eux?
Non, le temps est rapide. C'est qu'à un moment donné, on va à leur rencontre. Moi, des fois, je vais dans une ville. C'est la première fois que je vais dans cette ville. Et en une soirée, je tisse des bonnes relations avec ces jeunes. C'est-à-dire qu'on passe à un moment donné avec eux, on partage quelque chose. Moi, je fais du thé à la manche, je mets de la musique, des jeux de société et autres. Les jeunes viennent, ils apprécient la démarche. Il y a une relation de confiance qui se tisse. Et à partir de là, après, il faut les maintenir en même temps. Donc, et c'est qu'au bout d'un moment, il faut créer un espace convivial qui donne envie de parler ensemble en même temps, quoi. Donc au bout d'un moment, en même temps, il faut travailler sur ses propres préjugés, sur ses propres peurs pour pouvoir y aller, quoi. Mais il faut retisser ce lien avec ces personnes.
Yazid, j'ai une question. Quel est le rôle dans ton dispositif ou dans ce qui peut suivre ton dispositif? Parce que j'imagine que ce qui est intéressant, c'est que des citoyens s'emparent de ce que tu fais quand tu passes dans un quartier et qu'il y a une continuité dans ce qui a été fait. Quel est le rôle des femmes dans tout ça?
Et peut-être, ouais, juste en relation avec la question de Will, nous parler d'un dispositif qui, je crois, s'est mis en place dans le 92, où ce sont des femmes qui portent ces médiations nomades. Ça doit s'appeler Passerelle, avec un petit jeu de mots, passer apostrophe L. Est-ce que tu peux nous en parler?
D'abord, c'est moi le président de cette association-là, de Passerelle. C'est-à-dire que moi, je fais plein de médiations nomades, et en même temps, je suis enseignant à l'Université de Nanterre. Et j'ai tellement convaincu mes étudiants qu'ils ont envie de le faire. Et en plus, la plupart qui ont envie de le faire, ce sont des femmes. Donc c'est les femmes qui m'accompagnent très régulièrement en migration nomade. Et maintenant, elles ont envie d'en faire elles-mêmes, donc elles sont capables maintenant d'en faire. Donc elles prennent un camion et puis elles vont dans le département du 92. Donc faire des médiations normales, pour... parce qu'il y a quand même une problématique filles-garçons dans les quartiers. Et plus il y aura des filles dans les quartiers, plus il y aura de la mixité filles-garçons, et pour moi, il y aura plus... moins il y aura de la violence. Quoi. Donc il faut recréer ce lien entre les uns et les autres. Et pour montrer aussi qu'il ne suffit pas d'avoir été comme moi un délinquant, puis avoir été issu d'un quartier pour être bon dans les quartiers. On peut être bon quand à partir du moment qu'on est bienveillant avec les personnes. Quoi.
Et alors malgré cette bienveillance, est-ce qu'il peut arriver des situations où vous vous trouvez en difficulté? Moi je pense par exemple, les jeunes auxquels nous sommes confrontés, c'est souvent des jeunes qui sont impliqués dans des trafics de drogue très présents sur le quartier. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils peuvent aussi vous faire comprendre que vous les gênez dans ce qu'il faut bien appeler l'activité qui est la leur?
Oui, mais notre travail c'est aussi de les gêner. Mais on peut fréquenter des délinquants et avoir des bons rapports avec eux. Ils sont dans l'illégalité, mais ça reste que quand même des citoyens à part entière. Donc, pour travailler dans la prévention de la délinquance, il faut rencontrer des délinquants. Si on les rencontrera, on ne pourra pas faire du travail. Donc, il faut tisser des bonnes relations, y compris avec ce public-là, dans l'objectif de les changer. Plus ils rencontreront des gens honnêtes et plus ils pourront changer. Dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres.
Alain, une question peut-être?
Vous parlez beaucoup des jeunes, mais est-ce que vous avez des actions en direction des adultes? Il me semble que le problème sur notre quartier, en tout cas, c'est plus un problème de famille, de structuration de notre société qui comporte des problèmes du côté des adultes aussi bien que du côté des jeunes. Et quand je parle des adultes et des jeunes, ce ne sont pas seulement les populations qui habitent la partie la plus défavorisée du quartier. Il y a aussi une frontière qui se crée entre les pavillons et les HLM, par exemple.
Vous avez complètement raison. Le premier problème, ce n'est pas un problème de jeunes, c'est un problème d'adultes. On a les jeunes qu'on mérite en France parce que je trouve que les adultes sont assez défaillants. On voit bien. Ce ne sont pas les jeunes qui ont changé, c'est surtout les adultes. Avant, les adultes n'avaient pas peur, ils allaient aux rencontres, ils discutaient avec ces jeunes, ils pouvaient aussi les engueuler et tout. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup d'adultes évitent les jeunes, beaucoup d'adultes ont peur des jeunes, y compris des parents. Hein. Des parents qui n'osent pas parler à leurs enfants. Donc, on réglera le problème des jeunes quand on aura d'abord réglé le problème chez les adultes.
D'accord. Et est-ce que vous avez des actions qui vont dans ce sens?
Quand je fais les médiations normales, d'abord, je demande aux adultes de venir. Puisqu'ils disent, vous parlez de ces jeunes, vous en avez peur ou n'importe quoi, je vais essayer de vous les ramener. Et aux jeunes, c'est pareil, on essaie de les convaincre de rencontrer ces adultes. Deuxièmement, quand je fais des médiations normales, j'en fais au maximum 4 dans un quartier. Après, je fais des journées de formation. Ça peut être un jour, deux jours, trois jours de formation, où on apprend aux adultes à comment retisser des liens avec ces publics-là. Comment discuter avec des gens qui ne nous aiment pas. C'est toujours une question d'amour. On sait discuter avec des gens qui nous aiment, on ne sait pas forcément bien discuter avec des gens qui ne nous aiment pas. Donc il faut essayer de retravailler là-dessus et ça passe quand même par des temps de formation. Parce que je trouve que les agents ne sont pas suffisamment formés.
Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle les Blanche Neige, étape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide, mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd de ton époum, qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte, c'est certain, indirectement a montré que faire le mal, c'est bien. Demain, ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pour
penser au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, petit frère.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait. Mais là ces journalistes ont fait des états, et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes causes et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des portes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
Yazid, une question sur les différentes composantes de ce qui peut être le suivi du dispositif. Comment ça se passe? Avec qui tu travailles ou avec qui les citoyens travaillent quand toi tu pars d'un quartier, quand tu as fini ta médiation nomade, pour continuer la médiation ou les rencontres? Est-ce que ça travaille avec des maisons de quartier, avec la police, quels acteurs sont pertinents pour toi pour continuer ce travail-là?
D'abord, mon premier interlocuteur, c'est les mairies. Que le maire a la possibilité de mettre tout le monde autour de la table. Il a la légitimité et la compétence de mettre tout le monde autour de la table. Donc c'est avec le maire qui rencontre avec ses partenaires. Et donc mon travail, c'est de, quand une ville m'appelle, qui sont en difficulté avec des publics, qui ne savent plus comment faire, ils m'appellent, je leur dis toujours, moi je veux bien venir, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir? Donc une fois que j'ai fait par exemple une mec 4 soirées, ça peut être de la formation, c'est comment former les gens à discuter, y compris avec des gens qu'on ne nous aime pas. Peut-être que les structures fermées à 18h, peut-être qu'il y a une volonté politique de fermer plus tard. Je connais beaucoup de villes qui fermaient avant leur maison des jeunes ou leur centre social à 18h, ils ont décidé maintenant de les fermer à 23h, et parfois je les accompagne pour le faire. Je peux former des gens à la gestion de conflits, c'est-à-dire ils ont du mal avec les publics, ils ont peur, ils ne savent pas comment faire, donc il y a ça. Les former aussi à la prévention de la délinquance, puisqu'on dit en France, il n'y a pas de formation qui forme à la prévention de la délinquance. Même les éducateurs de prévention spécialisée ne sont pas formés à la prévention de la délinquance, donc il faut former les gens à ça. Je forme les gens à comment travailler le soir, puisque souvent on sait travailler la journée, on ne sait pas forcément travailler le soir, donc comment on travaille avec ça, comment on travaille sur les phénomènes de bande, comment on travaille avec les 100 ans de prison, comment améliorer les rapports entre les jeunes et la police. C'est-à-dire que quand je vais dans une ville, on parle quels sont les problèmes récurrents que vous avez sur votre ville, et on va réfléchir ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à travailler ensemble. À partir du moment que les partenaires, il y a de la confiance en eux, qu'ils arrivent à travailler ensemble, on arrivera forcément à trouver des pistes de solutions. C'est pour ça que la médiation nomade, c'est bien, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Et il y a des villes qui ont monté le même dispositif que médiation nomade, c'est-à-dire qu'ils ont un camion, ils tournent le soir dans les quartiers.
Alain, une question?
Votre dispositif repose toujours sur des associations comme Passerelle, ou bien vous avez diverses façons d'intervenir?
Non, ça peut être les institutions qui le portent. Ça peut être le club de prévention, les éducateurs spécialisés qui travaillent de cette manière. Ça peut être aussi le service jeunesse qui décide de travailler de cette manière. Donc, vous voyez, c'est le mieux pour moi, c'est quand même que ça soit porté par les institutions. Parce que les institutions ne sont pas dans la précarité, ils ont les moyens aussi de faire des choses en même temps. Et après, on peut être soutenu et avoir des partenaires comme des associations. Ça peut être une association qui se crée, hein, comme Passerelle ou d'autres villes, comme à Lyon, c'est le MAN qui porte le projet Médiation Nomade sur les quartiers de la région lyonnaise. Donc, chaque ville, ça peut être soit des institutions, soit des associations, ou soit d'autres institutions qui puissent porter le projet.
D'accord.
Et dans les partenaires avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'il arrive qu'interviennent des établissements scolaires, puisque vous parlez souvent du manque de reconnaissance de ces jeunes, et ce manque de reconnaissance et cette situation d'échec, elles se construisent notamment à l'école?
Oui, ça peut être... parfois, il y a des CPE, des principaux de collège ou des proviseurs qui viennent le soir rencontrer leur public, qui savent qu'ils sont le soir, ou souvent, parfois, c'est les établissements scolaires qui me demandent d'intervenir dans leur établissement scolaire pour leur expliquer ma façon de travailler. D'abord, au départ, mon parcours et ma façon de travailler, pour sensibiliser les jeunes à ces problématiques.
Alors Yazid, je continue ma question tout à l'heure, je parlais peut-être des défections des pouvoirs publics. On se souvient qu'il y a eu à une époque aussi la police de proximité à qui M. Sarkozy avait dit vous n'êtes pas là pour jouer au ballon avec les jeunes. Est-ce que toi tu reprends un peu ce flambeau-là des missions qu'avait la police de proximité, ou est-ce que tu te situes vraiment du côté citoyen des choses et que tu te mêles pas de justice ou de...
Non, non, oui, oui. Vous avez raison, oui, de par de proximité, mais pas que des policiers de proximité, mais des animateurs de proximité, parce qu'ils travaillent souvent dans leur mur, il faut travailler sur l'espace public. Mmh. L'important, c'est d'être sur l'espace public. Donc, de la proximité, la prévention spécialisée, des assistantes sociales, même des psychologues de proximité qui puissent être sur l'espace public et rencontrer le public là où ils sont. Ça peut être on peut aller dans le marché, on peut aller au café, on peut aller partout. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que tous les agents des services publics puissent être à l'extérieur. Et on s'aperçoit que souvent, ils ne savent pas, en dehors de leur bureau, beaucoup ne savent pas du tout comment faire. Donc c'est pour ça qu'il faut leur apprendre comment on va vers les autres. Et quel lien on arrive à tisser sur l'espace public avec ces personnes en même temps, quoi. Donc la proximité, c'est pour tout le monde. Pas que pour la police, mais pour tous les acteurs.
Et donc toi, dans tes équipes, tu essaies d'intégrer, dans la mesure du possible, et dans les villes où ça peut se faire, des assistantes sociales, des psychologues, c'est des choses qui se font?
Oui, mais après, je demande à la ville, ce serait bien que tous les acteurs qui puissent venir. Après, c'est la volonté des uns et des autres. Il y en a qui veulent venir, il y en a qui ne veulent pas venir. Il y a des villes où je fais de la médiation normale avec mon camion, il n'y a aucun acteur de la ville qui est présent. C'est pas moi le problème après. Mais après, je les rencontre, je fais un bilan, je dis oui, mais ça s'est très bien passé avec le public. C'est dommage qu'il n'y avait aucun acteur pour les rencontrer, parce que moi, je dois partir après. L'important, c'est qu'il y a des liens qui ont été tissés entre les uns et les autres. Donc, il faut qu'il y ait une volonté des uns et des autres. D'abord, une volonté politique, mais après, une volonté de chaque acteur, à un moment donné, de décider que, bon, aujourd'hui, j'ai envie de travailler le soir et j'ai envie, à un moment donné, de rencontrer ce public le soir en même temps. Vous voyez, pour que chacun puisse donner de soi-même, quoi. Ça dépend de chacun, quoi, de chaque individu, quoi.
Alors, peut-être une question, François?
Oui, je pensais au fait que peut-être nous sommes nous-mêmes et puis des gens qui se pourraient être susceptibles aussi d'avoir un peu de motivation pour agir sur les quartiers populaires. Une des questions qui se pose, que nous nous posons, c'est un petit peu nos propres compétences à aller parler à des jeunes qu'on ne connaît pas bien, qui ont une culture qu'on ne connaît pas bien. Et je pensais par exemple à une question un peu plus précise, comment est reçu un discours différent qui s'éloigne un peu des valeurs de violence qui sont souvent assez fortes dans ces quartiers-là. Comment est reçu le discours de résoudre, par exemple de parler de résolution non violente des conflits, voilà, c'est un peu ces questions-là. Et quelles compétences, comment on peut aider les gens à avoir confiance en eux au point d'aller rencontrer, de se mettre un peu en difficulté dans une rencontre?
Que personne ne triche, que chacun est ce qu'il est en même temps. Donc chacun vient avec ses compétences, avec ses incompétences, avec ses peurs, avec ses préjugés. Mais dans la rencontre, quand on partage quelque chose, quand on boit un verre avec une personne, quand on prend un repas, on partage. C'est-à-dire qu'il faut partager quelque chose. Et que chacun est là où il est, en même temps, chacun avec ses compétences et autres, mais chacun puisse avoir un discours en même temps. L'important, c'est d'écouter davantage la personne d'en face, et que chacun puisse, à un moment donné, échanger, quoi. Et chacun avec ses difficultés, quoi. peut-être le public qui ne connaît pas les quartiers a peur, mais aussi les gens des quartiers ont peur aussi en même temps de l'un et de l'autre. Et donc dans la rencontre, forcément, ça va les rapprocher.
C'est plus facile que ce que peut-être les gens peuvent imaginer, d'aller au contact de ces jeunes en soirée, la nuit, oui.
Mais parce qu'on a chacun a peur de l'inconnu. Et pourquoi oui. Et à un moment donné, le courage, c'est d'avoir peur d'y aller quand même. Puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'était pas si dur que ça en même temps. Ce sont pas des monstres qu'on a en face de nous, ce sont des personnes en difficulté. Un délinquant est avant tout une personne en difficulté. Donc c'est rencontrer les personnes à un moment donné, et il faut croire en soi, il faut croire en l'autre, il faut croire qu'il y a une solution qui est possible en même temps. Et forcément, il se passe quelque chose. Dans chaque rencontre, il se passe quelque chose en même temps, qui bouge de part et d'autre.
Tu dirais que la compétence que nous avons tous, c'est d'être soi-même dans la relation à l'autre.
Voilà, c'est ça. Complètement. Que chacun est soi-même. Et que la personne en face, même s'il est, c'est pour ça qu'il est délinquant, mais au bout d'un moment, il va parler de lui-même. Il va parler de ses propres difficultés. Et qu'il commet des délits aussi pour l'argent, mais aussi pour exister, pour faire quelqu'un. Donc, moi, à un moment donné, j'ai été délinquant, bien sûr, mais ça m'a permis d'exister. Ça m'a évité le suicide et ça m'a évité de devenir un toxicomane. La délinquance est un signe de bonne santé chez les jeunes. Ils sont pas bien dans leur peau, ils réagissent par la délinquance. Parce que d'autres qui sont pas bien, ils peuvent choisir le suicide ou la toxicomanie.
Une dernière question, peut-être, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, François.
Non.
Alors juste peut-être une question plus générale, Yazid Kerfi. Est-ce que tu as des... Parce que j'ai lu un peu dans ton parcours. En plus, toi, tu dis que derrière, ça ne suffit pas de faire des choix. Il faut aussi faire des études. Il faut aussi, comme tu fais, transmettre ce que son expérience. Est-ce que tu as un idéal derrière de en plus de changer les hommes et les femmes, de changer le monde quelque part? Est-ce qu'il y a ça derrière?
Derrière, c'est améliorer ce vivre ensemble. On s'aperçoit qu'on vit chacun dans des mondes séparés, on est vraiment dans une logique de guerre. Hein. Quand on écoute les discours des uns et des autres, forcément, il y a une radicalisation de part et d'autre. Et qu'on a chacun une part de responsabilité à son niveau. On a chacun une part de responsabilité. Donc chacun s'interroge, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce monde en même temps. Donc ça, mon idéal, c'est améliorer ce vivre ensemble. Et essayer de changer les choses et essayer de se battre contre ces dysfonctionnements. Quoi. Des dysfonctionnements, il y en a partout. Quoi. Quand je vais dans une ville, je regarde pas les jeunes, je regarde comment ça fonctionne et là, je vois plein de dysfonctionnements. Donc, j'essaie d'apporter mes compétences et mon savoir pour essayer d'améliorer ces choses. Quoi.
Merci beaucoup, Yazid Kerfi. Donc, on va se quitter sur ces mots. On rappelle qu'on peut aller voir pas mal d'informations sur le site www.mediationnomadetoutattaché.fr avec donc tout l'historique et beaucoup d'infos. On remercie François Bérengère et Alain pour ce plateau partagé. On te remercie encore, Yazid Kerfi. Et on se retrouve peut-être bientôt pour avoir des nouvelles de Médiation Nomade et de toutes les petites initiatives qu'elle fait naître autour d'elle. Merci encore.
Merci.
Merci à vous. Merci.